Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 21 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Tout d'abord les titres. Au Soudan, la fête de l'Aïd el-Fitr commence sous les bombes, en dépit de multiples appels au cessez-le-feu. 10 000 à 20 000 personnes ont fui les combats au Soudan pour le Tchad voisin. Au Burkina Faso, des syndicats réclament la libération des personnes enrôlées de force dans l'armée dans la lutte contre les djihadistes. En Ouganda, juristes et parlementaires demandent le réexamen d'une loi anti-LGBT+, controversée. L'Arabie Saoudite annonce que l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne sacré du Ramadan, a lieu ce vendredi dans le Royaume. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. De violents affrontements se sont poursuivis ce vendredi au Soudan entre l'armée régulière et les paramilitaires, en dépit de multiples appels au cessez-le-feu, alors que de nombreux habitants célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fin du mois sacré du Ramadan. Yacouba Ouédraogo.
Des tirs et raids aériens ont secoué la capitale Khartoum dans la nuit et la matinée, comme c'est le cas quotidiennement depuis le 15 avril, le bilan humain atteignant plus de 330 morts et 3300 blessés. Les contacts diplomatiques s'étaient pourtant intensifiés jeudi. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et chef de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, a annoncé avoir été contacté par des dirigeants régionaux, notamment sud-soudanais ou éthiopiens et internationaux, en particulier le patron de l'ONU, Antonio Guterres, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Tous ont plaidé pour un arrêt des combats contre les très redoutés paramilitaires des FSR, force de soutien rapide, du général Mohamed Hamdan Daglo pour l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne du Ramadan. Les FSR elles-mêmes ont annoncé leur accord pour une trêve de 72 heures à 4 heures au temps universel pour donner un répit aux Soudanais toujours pris sous les feux croisés. Mais, comme c'est le cas à chaque fois depuis plusieurs jours, ces annonces n'ont pas été suivies d'effet. Au même moment, le général Burhan apparaissait pour la première fois depuis le début des hostilités le 15 avril à la télévision d'État. Comme les années précédentes, il s'est adressé à la nation pour l'Aïd sans jamais mentionner une quelconque trêve. Khartoum, elle, entame une septième journée sous le fracas des raids aériens, des explosions et des combats de rue. Ces tirs incessants ont fortement endommagé de nouveaux hôpitaux jeudi, rapporte le syndicat des médecins. Quatre d'entre eux ont été touchés à Al-Obeid, à 350 km au sud de Khartoum.
Après une réunion avec le président de l'Union africaine et d'autres dirigeants internationaux, tous convaincus qu'une trêve est urgente au Soudan, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé les deux généraux rivaux pour tenter une nouvelle fois de négocier une pause dans les combats, principalement concentrés à Khartoum et au Darfour dans l'Ouest. Au même moment, les États-Unis annonçaient dépêcher des militaires au Soudan pour faciliter une éventuelle évacuation de leur ambassade, alors que l'aéroport est fermé depuis samedi et que les chancelleries appellent leurs ressortissants à se signaler tout en évitant tout déplacement. Dans la capitale, de nombreuses familles ont épuisé leurs dernières victuailles et n'ont plus ni électricité ni eau courante. Le réseau téléphonique, lui, ne fonctionne plus que par intermittence. Femmes et enfants, majoritairement, se pressent sur les routes pour fuir entre checkpoints des FSR et de l'armée et cadavres qui jonchent les bords de route. Pas moins de 10 000 à 20 000 personnes ont fui les combats en cours au Soudan pour trouver refuge au Tchad voisin. C'est ce que soulignent les équipes du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés présentes à la frontière, John Linden.
La majorité des personnes qui arrivent sont des femmes et des enfants. L'OHCR a fait savoir qu'il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien et ses partenaires pour évaluer leurs besoins et préparer une réponse commune. Selon Aziz Mohamed Saleh, ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement, entre 10 000 et 20 000 personnes ont été accueillies, la plupart dans le département de la Sunga. Chaque jour, des gens affluent et un couloir humanitaire a été ouvert, a-t-il dit. L'Est du Tchad accueille déjà plus de 400 000 réfugiés soudanais et les nouveaux arrivants font peser une pression supplémentaire sur les services publics et les ressources du pays qui sont déjà surchargés, ajoute le ministre. Les besoins les plus urgents sont l'eau, la nourriture, les abris, les soins de santé, la protection des enfants et la prévention de la violence sexiste, indique l'OHCR.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, l'UAS, l'unité d'action syndicale qui regroupe les principaux syndicats, a appelé jeudi à la libération de toutes les personnes interpellées et enrôlées de force dans l'armée. Mercredi, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a signé un décret de mobilisation générale d'une durée d'un an permettant la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre les djihadistes. Le point avec Dili Diko.
L'UAS condamne dans son communiqué les dérives des autorités et exige la libération de toutes les personnes interpellées et enrôlées de force pour avoir donné leur avis sur la marche du pays et le respect du droit de se prononcer sur la gouvernance du pays. La principale coalition syndicale du Burkina Faso note le traitement dégradant d'un jeune homme recruté de force et connu pour avoir un handicap visuel à travers la diffusion de photos et vidéos où il apparaît en tenue militaire, arme en main et s'excusant auprès du président de la transition. Le 23 mars, lors d'une rencontre à Kaya, dans le centre-nord du pays, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reconnu avoir ordonné l'enrôlement d'un citoyen l'ayant accusé d'avoir divulgué des informations qui ont conduit à l'attaque d'un lieu stratégique. D'autres organisations de la société civile affirment également que deux de leurs représentants ont été interpellés et enrôlés comme VDP, volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs de l'armée, après avoir critiqué la gestion de la transition lors d'une conférence de presse.
En Ouganda, les juristes gouvernementaux conseillent au président Yoweri Museveni de renvoyer devant le Parlement une loi anti-LGBT plus répressive, controversée, afin qu'elle y soit réexaminée. Gina Niwa.
Le Parlement ougandais a voté le 21 mars une loi contre les relations homosexuelles, suscitant l'indignation de nombreuses organisations de défense des droits humains et de gouvernements de pays occidentaux. Des sources proches de la présidence ougandaise disent que le président Museveni pourrait le renvoyer au Parlement. Maître Kargaba, le procureur général adjoint, souligne que plusieurs dispositions pourraient être contestées pour des motifs d'inconstitutionnalité. Selon des défenseurs de droits LGBT+, le texte prévoit la réclusion à perpétuité pour toute personne se livrant à des activités homosexuelles et la peine de mort pour les récidivistes. L'ONG Amnesty International, Washington, Londres et l'Union européenne ont appelé le président ougandais à rejeter cette loi. La Maison-Blanche a notamment mis en garde l'Ouganda contre de potentielles conséquences économiques si la loi entre en vigueur.
En Tunisie, le chef du parti islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, principal opposant au président Kais Saied, a été placé sous mandat de dépôt jeudi selon ses avocats. Il avait été interpellé lundi soir après avoir affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y étaient éliminés. Réagissant aux inquiétudes exprimées dans les capitales occidentales, le président Saied a fermement rejeté ces critiques dans une vidéo diffusée par la présidence jeudi soir, disant « Pourquoi le font-ils alors qu'il s'agit d'un appel à la guerre civile et la loi a été appliquée par des juges honnêtes ?» Pour sa part, Ennahda a rejeté toute intention de son chef d'appeler à la guerre civile. L'Arabie saoudite a annoncé hier que l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne sacré du Ramadan, a lieu ce vendredi dans le royaume, lieu de naissance de l'islam et du grand pèlerinage du Hajj. La riche monarchie du Golfe abrite les sites les plus saints de cette religion, à commencer par la Mecque, et conserve aussi une influence particulière à travers le monde musulman. La date de l'Aïd el-Fitr est déterminée par l'observation du croissant de lune, conformément au calendrier lunaire musulman. Ailleurs dans la région, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Libye, la Jordanie, le Soudan, l'Égypte, l'Algérie débutent leur célébration ce vendredi. Oman, l'Iran, l'Irak fêteront eux l'Aïd samedi. Le jeûne du Ramadan est un des cinq piliers de l'islam. La Minute Éco, Nathalie Barge.
L'Institut des ressources mondiales a obtenu un financement de 100 millions de dollars pour restaurer des paysages dégradés en Afrique. Des plantations d'arbres sont prévues dans le bassin du lac Kivu et de la rivière Rusizi en RDC, au Burundi et au Rwanda, ainsi qu'au Ghana et dans la vallée du Rift au Kenya. Ce projet entre dans le cadre d'une initiative de l'Union africaine visant à restaurer 100 millions d'hectares de paysages dégradés et déboisés d'ici 2030. Dans son rapport 2023, le Conseil du diamant naturel précise que la fabrication du diamant synthétique en laboratoire nécessite une énorme quantité d'électricité. Selon le NDC, plus de 60% des diamants synthétiques sont produits en masse en Chine et en Inde, où jusqu'à 74% de l'électricité provient du charbon. Le taux de récupération de diamants naturels a atteint son apogée en 2005 et a diminué de plus de 30% au cours des 16 dernières années, indique le rapport. Le brasseur néerlandais Heineken va investir 15,5 milliards de rands en Afrique du Sud sur 5 ans, soit environ 777 millions d'euros. Le projet comprend la construction d'une nouvelle brasserie et d'une malterie, ainsi que l'extension des opérations existantes. Heineken avait annoncé fin 2022 le rachat du fabricant sud-africain de spiritueux Distell pour 2,4 milliards de dollars, une transaction approuvée le mois dernier par les autorités chargées de la concurrence.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Pétanque pour commencer. Le 50e championnat du monde est maintenu au Bénin.
Oui, c'est maintenant officiel. La compétition aura lieu en septembre prochain. Correspondance à Élisée Mpatine sur place à Bouikon.
Cette annonce a réjoui Claude Azema, président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provincial, venu à Cotonou pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de la compétition.
On est un petit peu avancé, mais ce qu'on veut, c'est après rapporter aux gens du détail, des choses qui sont organisées. Donc c'est pas une inquiétude. Le premier championnat d'Afrique avait eu lieu ici. Ça a toujours été très bien réussi. Et puis pour nous, c'est un appui essentiel de savoir que le gouvernement, le comité olympique, les comités des sports sont derrière la fédération pour réussir.
Il n'y a donc plus d'inquiétude. Le championnat du monde de pétanque, la 50e édition aura lieu à Cotonou. Le lieu et les dates ont été avancées avec beaucoup de précision. Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules.
Le chef de l'État et son gouvernement ont pris la mesure de la chose et ils ont décidé pour le plan B, ça va se dérouler du vendredi 8 au dimanche 17 septembre 2023. Au niveau de la place des Amazones.
De son côté, saluant l'engagement des autorités béninoises d'offrir cet événement international pour leur pays, le président de la Fédération béninoise de pétanque, Gaba Yaya, a réitéré le soutien de tout le peuple béninois pour sa réussite.
Maintenant que le Bénin veut abriter pour la première fois de son existence une Coupe du Monde, je crois qu'il ne revient qu'à tous les sportifs à divers niveaux, toutes les fédérations réunies, pour qu'on porte la chose, pour qu'on dise que prochainement ça va être le temps d'une autre discipline.
Boycon, Élisée Rumpati, VOA Africa.
Football, un grand Youssef En-Nesyri envoie le FC Séville en demi-finale de l'Europa League.
C'est un exploit pour l'international marocain, auteur d'un doublé et ses équipiers rois de la Ligue Europa. Le Séville FC, qui avait arraché le nul 2-2 à Old Trafford à l'aller, a créé la sensation en surclassant Manchester United 3-0 et décroché un ticket inespéré pour les demi-finales de la Ligue Europa. Youssef En-Nesyri a ouvert ouvert la marque dès la 8e minute après une récupération d'Éric Lamela dans les pieds d'Harry Maguire, auteur d'une nouvelle bourde après avoir marqué contre son camp à l'aller. Puis le défenseur français Loïc Baldé a doublé la mise au retour des Vestiaires avant le dernier but d'En Nesri, des 30 mètres sur une sortie ratée de David De Gea. C'est une qualification insoupçonnée pour le club andalou, détenteur du record de titres en Ligue Europa, 6 trophées remportés en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Tchad suit de près donc la situation au Soudan voisin où un violent conflit oppose l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. N'Djamena surveille sa longue frontière avec le Soudan et le président de la transition du Tchad, le général Mahamad Idriss Déby, est impliqué dans la recherche d'une solution à la crise. Pour en parler, Mohamed Oumfa, adjoint Aziz Mahamad Saleh, ministre tchadien de la communication.
Le Tchad est d'abord solidaire du peuple soudanais dans cette épreuve et le Tchad fait tout ce qui est en ses prérogatives et en ses capacités pour que la paix revienne au Soudan et que la transition puisse se terminer suivant l'agenda qui a été initialement fixé. Donc le Tchad en appelle à la paix et fait toutes les démarches, que ce soit diplomatique ou les contacts avec les pays amis au niveau continental et international, pour que la paix revienne. Les conflits, que ce soit à Khartoum ou dans les autres zones, ont des répercussions directes sur le Tchad qui a 1500 km de voisinage avec le Soudan.
Quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement tchadien? On parle de la fermeture des frontières, par exemple.
Effectivement, la fermeture de la frontière était une obligation de fait pour cantonner un petit peu les débordements éventuels. Mais bien évidemment, nous avons beaucoup de populations qui vivent d'une rive à une autre. On ne peut pas hermétiquement la fermer. Bien évidemment, il y a des couloirs humanitaires qui sont organisés. Et face à l'afflux éventuel de réfugiés que nous craignons, comme dans les dernières années 2000, lorsqu'il y a des conflits au Darfour, il y a beaucoup, malheureusement, de personnes qui fuient ces guerres, qui se réfugient au Tchad. Donc le Tchad, à ce niveau-là, bien évidemment, essaiera, selon ses capacités, de pouvoir accueillir autant que possible, mais aura besoin, bien évidemment, de l'appui également de ses partenaires.
Dans ce cadre, d'ailleurs, vous avez reçu plus de 300 soldats soudanais qui sont arrivés du Soudan. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet?
Bon, effectivement, il y a eu à peu près 300 personnes qui ont été recueillies au niveau de la frontière. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer la qualité de ces personnes. Parce qu'en réalité, il faut être prudent. Il se peut que ce soit des forces qui sont au niveau de la force mixte Tchad-Soudan. Pour le moment, le Tchad se réserve de la confirmation de la qualité de ces personnes avant de pouvoir donner des détails dans un premier temps. Mais bien évidemment, il y a aussi un certain nombre de civils qui fuient ces conflits et qui sont recueillis au niveau de la frontière. Ça va crescendo et on espère pouvoir contenir la situation à ce niveau-là.
Il y a d'ailleurs plusieurs Tchadiens qui vivent au Soudan. Quelles sont les dispositions qui ont été prises ou alors quel est le message pour vos compatriotes qui vivent le conflit en direct sur place?
Nous avons énormément de Tchadiens par milliers, si ce n'est millions, qui vivent et habitent au Soudan. Certains y étudient aussi. Le message, c'est d'abord d'essayer de se mettre à l'abri dans ces périodes-là. Toutes les ambassades et les services consulaires ont émis des numéros verts qui passent sur les ondes des radios, des télévisions, et donc ils contactent ces numéros en cas de difficultés particulières et surtout qu'ils se mettent en retrait et à l'abri autant que possible en suivant les consignes des services diplomatiques.
Le président de la transition, le général Mahamad Idriss Déby, serait impliqué déjà pour la résolution de ce conflit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est exactement? Est-ce que le Tchad a quelques pistes de solutions à proposer aux belligérants?
Le Tchad a une relation assez ancienne et très impliquée avec le Soudan. C'est la raison pour laquelle le président de transition n'a pas attendu le conflit pour recevoir tout tour à tour les deux belligérants il y a quelques semaines de cela. C'était en prévision de ces risques que le Tchad entrevoyait et le chef de l'État avait demandé justement à ce que on évite coûte que coûte l'affrontement malgré les divergences. Malheureusement, quand il était en Arabie Saoudite, ces événements ont eu lieu.
C'était Aziz Mohamed Saleh, ministre de la Communication du Tchad. Les Tchadiens, nous l'avons dit, suivent donc de très près la situation au Soudan. L'armée soudanaise accuse certains pays voisins de soutenir les paramilitaires des RSF, forces de soutien rapide, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Dans ce reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, réaction de quelques citoyens tchadiens.
Si l'armée soudanaise accuse certains pays de soutenir les RSF, il doit s'en dire que ce n'est pas en tout cas le Tchad.
Docteur Evaris Ngarlom, Toldé, politologue et ancien chercheur, toutefois il nuance ses propos.
Ça peut être un Tchadien ou certains Tchadiens, parce que le RSF a un peu de lien, de sang avec certains responsables militaires du Tchad. Il va s'en dire que ceux-là pourraient certainement agir en leur nom, mais à ce que je sache, le Tchad a proposé sa médiation. Il serait difficile pour notre pays d'être en même temps impliqué et proposer une médiation.
Pour Natoyala Ringar, président du Parti des intellectuels socialistes tchadiens pour l'évolution et porte-parole du mouvement des 12 revendications, un regroupement des partis politiques de l'opposition, le Tchad serait bel et bien impliqué dans cette situation.
Il ne faut pas que ces détenteurs de pouvoir mettent la population tchadienne en danger. Et non seulement le Tchad, on peut même parler de la sous-région. Parce que assez des armes qui seront emportées, ça va créer des réseaux de tensions, des groupes terroristes et autres. Donc il y a vraiment des inquiétudes. Ce n'est pas d'abord une guerre d'une journée, une d'une semaine telle que c'est lancée. Je pense que cette guerre ira loin comme ce qui se passe en Libye. Donc le gouvernement tchadien doit se calmer pour ne pas se créer encore des problèmes. Parce qu'on a des problèmes partout. Si encore on accentue d'autres problèmes avec le Soudan, je pense que nous allons subir encore des conséquences graves.
Inquiétude largement partagée par le politologue Dr Evaris Ngarlom Toldé. Pour lui, ces affrontements auront des impacts négatifs sur le Tchad.
On se rappelle déjà du conflit du Darfour, on se rappelle déjà de la présence des Djanjaouides à la frontière et aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont aux prises avec l'armée régulière. Quand bien même le Tchad a fermé sa frontière avec le Soudan, c'est aussi une des frontières les plus poreuses. Beaucoup de ceux qui se trouvent, que ce soit dans l'armée régulière ou dans les RSF, sont parfois d'origine tchadienne. Cela constitue effectivement une menace pour le Tchad.
Justement, selon certaines sources, une grande partie de ces combattants armés a dû traverser malgré la fermeture de ses frontières pour se retrouver sur le territoire tchadien. Le constitutionnaliste professeur Ahmad Mahamat Hassan demande aux autorités de N'Djamena d'être prudentes.
Ces gens qui sont venus armés, ils trouvent le soutien de leurs parents au Tchad et ça constitue un danger grave pour le régime de la transition s'il ne prend pas des dispositions. Bien sûr, ce qui se passe au Soudan est assez contaminant pour le Tchad qui est à la recherche de la stabilité menacée par une rébellion au Nord et des bruits de haute botte au sud également. Il y a beaucoup d'incertitudes dans la sous-région Tchad-Soudan et il y a beaucoup de risques qu'il y ait des changements de pouvoir par la violence comme ça a été toujours le cas depuis des décennies.
Contacté par VOA Afrique, le ministre tchadien de la Communication, Aziz Mohamed Saleh, confirme la présence de plus de 300 combattants soudanais armés sur le territoire tchadien, mais que leur nature n'a pas encore été déterminée. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En RDC, la résurgence du M23 a poussé plusieurs milliers de personnes à quitter leur village dans l'est du pays. D'autres personnes ont été contraintes de rester malgré le calvaire qu'elles ont enduré. Quelques jours après le retrait des rebelles dans ces zones, notre correspondant Zanem Neti Zaidi est allé à la rencontre de certains habitants. Son reportage.
Zirabakuriki Zajan est un habitant de la cité de Bounagana dans les territoires de Rutshuru. Coiffeur de son état, il remercie les retours progressifs de la paix dans sa cité après que celle-ci passe dans les mains des contingents ougandais qui font partie des forces de l'EAC. Cependant, il déplore le fait qu'il n'a plus de clients car beaucoup de gens sont déplacés à cause de la guerre.
Depuis le début du déplacement de la population ici, les activités tournent au ralenti. Avant, nous avions un nombre élevé de clients qui variait entre 20 à 25 personnes. Mais aujourd'hui, nous ne recevons plus que 5 personnes par semaine.
Depuis le déploiement de la force régionale de l'EAC dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, la situation sécuritaire a commencé à changer. La route Goma-Rutshuru est rouverte dans toutes les zones sous contrôle des forces kenyanes. Bimenyimana Grégoire, membre de la société civile, reconnaît les efforts de la force régionale EAC dans la recherche de la paix, mais déplore le fait que dans certains coins sous contrôle des rebelles du M23, une taxe est obligée aux motocyclistes.
Comme aujourd'hui, vous me voyez, nous avons des taxes. Les taxes que les M23 nous imposent quand nous circulons en route. Et les activités sont toujours paralysées, vous voyez. Nous quittons Rutshuru, on arrive quand même à Goma. Les gens de Goma, les autos, les véhicules, tout ça, ils ne peuvent pas piétiner à Goma, les enjeux qui quittent Rutshuru vers Goma.
De son côté, la force de l'Afrique de l'Est poursuit sa mission d'instaurer la paix dans toutes les zones sous sa responsabilité.
Moi, j'ai fait mon travail comme une force professionnelle. Je m'assure que je réalise ces 4 points que je viens de vous dire. D'abord, collaborer avec mes frères FRDC. Deuxième, instaurer une ligne, faciliter les agences humanitaires. Et enfin, les processus des DRCS.
D'après les bureaux de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au moins 521 000 personnes ont été déplacées depuis mars 2022 à cause des affrontements dans les territoires des Rutshuru et Nyiragongo. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Nigeria, les femmes dénoncent leur faible représentation politique au sein des institutions de l'État fédéral. Le nombre de femmes élues a diminué aux élections de cette année. Selon les experts, la réticence des hommes à partager le pouvoir politique avec les femmes laisse le Nigeria toujours à la traîne. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Pour Maureen Dariat, entrepreneur et activiste, le Nigeria vient de faire un pas en arrière sur le plan politique, car beaucoup moins de femmes ont remporté des sièges lors des récentes élections générales et présidentielles.
C'est la participation la plus faible que nous n'avions jamais des femmes. Parce que même le nombre de femmes députées que nous avions avant l'Assemblée nationale ne sont pas revenues. Elles n'ont peut-être pas réussi durant les primaires où elles n'ont même pas obtenu le ticket de leur parti. Donc, la participation des femmes à ces élections a été très mauvaise.
La faible participation des femmes aux postes électifs et nominatifs est une préoccupation croissante pour de nombreux Nigérians, alors que la moitié de l'électorat et de la population est composée des femmes. Faith Mwadiji est directrice du Centre pour la transparence.
Lors des congrès des partis où ils choisissent leurs candidats, vu la quantité d'argent qui est dépensé, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui veut être sur les tickets d'un parti qui puisse dépenser de telles sommes. Les gens n'étaient pas payés en naira, mais en dollars. Un autre aspect, c'est de l'achat de votes. C'est une chose d'être sur le ticket d'un parti, mais c'est une autre chose de devenir candidat.
Pour certains Nigérians, c'est aussi un rappel des nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans ces grands pays d'Afrique de l'Ouest. Ene Obi, directrice Action Aid Nigeria.
Nous sommes dans ce combat depuis. Nous avions eu du mal à faire examiner les projets de loi sur le genre, les 5 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale et comment la Chambre des représentants a juste décidé de les jeter par la fenêtre. Le Sénat lui-même avait ses propres réserves et il y a eu un tollé dans le pays pour quelque chose qu'on pensait être simple, car c'est une préoccupation de 50% de la population.
Une seule femme a occupé l'un des 4 postes les plus importants du pays. C'était un mandat de 5 mois seulement au perchoir de l'Assemblée nationale en 2007 avant d'être destituée. Aujourd'hui, 5% des législateurs fédéraux sont des femmes, l'un des taux les plus bas de représentation à l'échelle mondiale. En mars 2022, les femmes ont protesté à plusieurs reprises devant le Parlement fédéral d'Abuja contre le rejet par le Parlement des projets de loi pour l'égalité. Un de ces projets prévoyait la création de sièges supplémentaires pour les femmes dans les parlements nationaux et des États, ce qui n'a jamais pu avoir lieu. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.